Alors, au début des années 70, lorsque je préparais mon mémoire de maîtrise à l'université de Paris 5, Descartes, je pensais partir par la suite en Afrique, travailler sur l'esclavage pour ma thèse de troisième cycle. Mais déjà à cette époque, certains pays africains commençaient à refuser aux ethnologues l'accès sur leur territoire et de l'autre, un courant fort au sein de l'anthropologie sociale américaine nommé Radical Anthropology appelait à que les ethnologues ne fassent de la recherche empirique que dans leur pays natal. L'idée forte était qu'il fallait laisser l'Afrique aux ethnologues nés en Afrique. Convaincue par ces arguments, j'ai donc décidé de me tourner vers l'Italie, tout en me disant, pour ne pas être fautive par rapport à un autre courant fort en ethnologie, que ma connaissance de l'Italie était assez limitée, ayant vécu en Italie, à Milan pour être plus précise, pendant 5 ans, et cela lors de mon âge adulte. J'ai donc décidé de partir en Italie pour entamer ma recherche de terrain, comme on dit dans le jargon de notre profession. La première recherche était axée sur les conversions au pentecôtisme en milieu rural, que j'ai observé surtout dans les Pouilles, au sud-est de l'Italie, et en Campanie. Quelques années plus tard, je suis partie plus au sud, en Sicile, où j'ai d'abord travaillé sur les représentations de la justice en Sicile occidentale, et par la suite sur le réconfort donné de 1541 à 1820 par l'une des confréries locales spécialisées dans le sauvetage des âmes des condamnés à mort, c'est-à-dire les Bianchi de Palerme. Dans la mesure où ces deux dernières recherches comptaient éclairer les représentations anciennes et actuelles de la justice sicilienne à travers des phénomènes de longue durée, vendetta, spectacle de justice, omerta, vol, mafia, etc., dans une société ancrée depuis plusieurs siècles, dans une histoire écrite, l'enquête s'est vite révélée impossible sans une étude de type historique. Mais si une étude historique devenait incontournable, elle gardait en même temps une profonde cohérence avec le concept geertzien de thick description, qui dit que lors de la recherche de terrain, l'ethnologue doit prendre en considération non seulement ce qu'il voit en tant qu'observateur, mais aussi l'interprétation que les gens qu'il observe donnent de leur propre culture. En effet, seule une recherche historique pouvait me permettre d'avoir une profonde connaissance de l'interprétation que les groupes étudiés donnaient de leur propre culture. Ainsi, j'ai commencé à travailler sur la période que l'on définit comme traditionnelle, c'est-à-dire le milieu du XIXe siècle. J'ai analysé les phénomènes d'honneur, vendetta ou omerta, dans les faits divers récents ou anciens, les chants des prisonniers, les petites histoires, les apologues racontés par les paysans, les relations des voyageurs, les poèmes, les minutes des procès disponibles, les spectacles de mise à mort, les archives des Bianchi et les pièces de théâtre, et publier les résultats de ces recherches. Le livre que je dois présenter aujourd'hui, Dire ou taire en Sicile, publié par les éditions du Félin en 2008, est donc le fruit de ces trois recherches. Ce que je veux dire est qu'il y a eu de ma part un cheminement grâce à ces trois études qui m'ont progressivement porté vers le thème central du livre, qui est celui des stratégies de la parole, principalement l'acte d'occulter et l'acte de dévoiler la parole. Donc, il me semble nécessaire de dire quelques mots sur ces trois recherches avant de parler des stratégies de la parole, pour que mon cheminement soit plus clair à vos yeux et pour que le thème des stratégies de la parole devienne aussi pertinent qu'il est au mien. Donc, ma première recherche était sur les conversions au pentecôtisme en Italie rurale du Sud. Les grandes émigrations italiennes de la fin du XIXe siècle et le début du XXe vers les États-Unis d'Amérique ont provoqué, chez la plupart des paysans du Sud, une attente millénariste au regard de ce pays qui s'est poursuivi grosso modo jusqu'aux années 50 et qui est en outre responsable de l'éclosion d'une pluralité de phénomènes parmi lesquels on trouve le pentecôtisme. Dans leur pays d'accueil, les immigrés se convertissaient au pentecôtisme pour mieux s'y intégrer car ils avaient la possibilité de fréquenter des gens extérieurs à leur propre communauté, tout en pouvant avoir la possibilité de communiquer avec eux. Et l'ignorance réciproque des idiomes n'était plus un handicap, car le don des langues ou glossolalie reçu par le Saint-Esprit palliait ces défaillances en permettant aux fidèles de communiquer entre eux. Une fois convertis et se sentant sauvés, surtout grâce au don du Saint-Esprit, le nouveau fidèle veut sauver les membres de sa famille nucléaire et ceux de sa famille élargie restés au village natal. Il prépare son voyage et retourne au pays comme missionnaire, mais l'acceptation de la nouvelle doctrine est subordonnée à la réputation qu'il a su acquérir au sein de sa famille pendant ses années d'exil. Une renommée de réussite arrive à convaincre les siens du bien fondé de la doctrine prêchée, tandis qu'une renommée d'échec les détourne de lui. Trois phases caractérisent la naissance et le développement des groupes pentecôtistes du Midi. La phase des conversions et des premiers baptêmes collectifs, celle de l'assise et pour finir celle de l'institutionnalisation. Ces phases révèlent le degré d'implantation du groupe au sein du village et sa progressive acceptation par la population catholique après une période de harcèlement systématique. Son évolution interne et son besoin de rattachement à une institution susceptible de les représenter, telle que l'United Pentecostal Church of Europe and of the British Isles. C'est avec des variantes que ces trois phases ont lieu parmi les groupes que j'ai rencontrés, dû aussi au fait que l'un de ces groupes, ancré à Acadia, a été suscité et développé par une femme missionnaire, tandis que tous les autres groupes avaient été implantés par des hommes missionnaires. Contrairement à ce qui se passe en milieu urbain, où certains critères socio-professionnels semblent prédéterminer les possibilités de conversion et l'étendue de ces nouvelles églises, en milieu rural, en revanche, ce sont les critères de famille, de réputation, clientélisme qui sont responsables de leur réussite. C'est en cherchant à savoir quelles sont les motivations du prosélytisme et comment s'opèrent les conversions que j'ai été amenée à recourir pour l'analyse des faits aux notions utilisées pour l'analyse du sud italien en anthropologie sociale, c'est-à-dire familisme, réputation, patronage, en essayant surtout de dégager le jeu subtil entre les convertis et les membres de la société locale autour des possibles limites à franchir ou à ne pas franchir. Ma deuxième recherche était celle sur les représentations de la justice en Sicile. Cette étude était donc centrée sur les représentations de la justice. Au contact de la Sicile depuis 1978 et souhaitant conduire une recherche qui puisse rendre compte de la spécificité de l'île, j'ai graduellement abandonné l'idée première de faire une enquête sur le code de l'honneur, trop restrictif et de plus trop lié dans l'esprit des Siciliens au code de la mafia, pour choisir de travailler sur les représentations de la justice. Le thème en question dérive son intérêt du fait qu'il a l'ambition de fournir une compréhension totalisante de la société sicilienne qui se présente de façon contrastée mais qui bute régulièrement sur des problèmes inhérents au judiciaire. En effet, la Sicile semble être le choix approprié pour l'étude des représentations de la justice puisque, comme le dit Louis Dumont, et je cite, il faut saisir chaque sorte de représentation là où elle est pleinement accentuée et élaborée, là où elle s'élève à la prédominance et non là où elle est maintenue par la prédominance d'autres représentations dans un état rudimentaire ou résiduel. La troisième recherche, c'est un sujet très pointu qui englobe, selon moi, représentations anciennes et actuelles de la justice susceptibles de livrer quelques clés sur le monde contemporain sur lequel j'ai travaillé pendant une longue période. Donc cette recherche est celui des criminels sanctifiés de Palerme. C'est grâce à l'intérêt croissant que le sauvetage de l'âme avait acquis aux yeux de l'Église à partir du XIIIe siècle, suite à l'essor de l'idée de purgatoire, que des confréries spécialisées dans le sauvetage des âmes des condamnés à mort ont vu le jour en Italie. À Palerme, de 1541 à 1820, une compagnie composée essentiellement de hauts aristocrates, appelée la Compagnia del Santissimo Crocifisso dites des Bianchi, s'occupait de les trois derniers jours et nuits avant leur exécution dans une chapelle de la prison locale pour ensuite les accompagner à l'échafaud lors d'une procession pendant laquelle les condamnés à mort étaient lourdement suppliciés, tout au moins jusqu'en 1650. Les enseignements religieux des Bianchi ainsi que les nombreuses répétitions effectuées par eux pour préparer les condamnés à mort à bien se conduire lors des supplices et de l'exécution, réussissaient à mettre les condamnés dans un état où ils acceptaient non seulement le fait de leur exécution, mais aussi supportaient de façon stoïque toutes leurs souffrances dans la plus pure tradition de l'imitation du Christ. Lors de leur exécution, cette attitude contribue à émouvoir les spectateurs et à souder tous les présents dans un sentiment de réconciliation sociale qui avait lieu à travers la mise à mort des condamnés. Les corps de ces derniers, une fois ensevelis dans le cimetière près du pont de l'Amiral et de l'église Madonna del Fiume, donnaient lieu à une canonisation populaire, spontanée, car les fidèles s'adressaient à leur âme, et ce jusqu'à nos jours, comme à des âmes saintes. L'étude de ce réconfort m'a permis de voir à quel point la compagnie des Bianchi était différente des autres compagnies italiennes plus anciennes et du fait qu'elles se souciaient jusqu'au moindre détail de la mise en scène qui accompagnait l'exécution du condamné. La découverte dans les archives palermitaines d'un corpus de 76 décharges de conscience dictées aux Bianchi par les condamnés à mort la veille de leur exécution m'a permis d'avancer en intégrant dans ma recherche les voix des condamnés. Les documents d'archives et ce corpus ont donné une dimension ethnographique à l'enquête historique. Ils m'ont permis de décrire de façon minutieuse le rituel de métamorphose que les Bianchi accomplissaient avec le condamné à mort, la façon dont ce dernier était perçu par le public et le fait que la figure du Christ finissait par se superposer à la sienne. De plus, j'ai pu faire une enquête de terrain dans l'église où le culte aux âmes saintes continue d'exister. Grâce à cette découverte, celle du corpus de 76 décharges de conscience dictées par les condamnés aux Bianchi, j'ai pu affiner la perception que l'on avait de la notion d'omerta, si, en dépit du fait que ce mot d'omerta ne revient jamais dans mon corpus, qui s'étend de 1567 à 1805. De plus, sous la torture judiciaire, aucun des 76 repentis n'a pu résister à livrer des noms, comme ils confessent par la suite dans leur décharge. J'ai donc par la suite pu écrire un article qui est devenu un chapitre dans le volume d'Irouter, dans lequel j'ai analysé la question de l'omerta d'un double point de vue historique et anthropologique. Tout à l'heure, je vais parler de façon plus approfondie de cette absence du mot omerta dans les 76 décharges de conscience. Mais revenons maintenant au thème central du livre, celui des stratégies de la parole. À un certain moment de ma recherche, je me suis rendu compte que l'utilisation de la parole dans des situations en marge avait toujours été au centre de mes intérêts, et ce, dès ma première recherche pour étudier les conversions au pentecôtisme, lorsque j'ai été confrontée à la glossolalie. Je me suis aussi rendu compte que mes études sur les représentations siciliennes de la justice m'ont mis face à la pratique du silence, omerta, valorisée par le Code de l'honneur, à travers, entre autres, les décharges de conscience, et ou bien à travers l'utilisation plus que raffinée de la métaphore ou à travers la prise de parole publique. J'ai donc décidé de tirer les fils de ces recherches dans un volume, celui dont on parle aujourd'hui, pour montrer que ces différentes stratégies de la parole présentent un cadre bien spécifique de la société méridionale italienne ou même méditerranéenne. J'ai préparé ce volume qui réunit donc 12 essais. Et dans l'introduction, je souligne comment, dans ce projet, je me suis concentrée sur la rétention ou l'utilisation de la parole dans ces situations en marge. En effet, On a trop reproché aux paysans du sud de l'Europe leur passivité et leur manque de sophistication. Mais qu'en est-il vraiment? Mon livre tente d'illustrer, par maintes exemples, puisés en Italie et surtout en Sicile, qu'il n'en est rien. J'insiste sur le fait qu'en réalité on décèle, dans le comportement de ces paysans vis-à-vis de la parole, une véritable stratégie qui peut et doit être analysée. Ainsi, dans ce système, dit Luther, ne sont plus des comportements qui s'opposent ou se contredisent, mais bel et bien des choix stratégiques de la part du locuteur pour atteindre son but. Comme souligné dans le premier paragraphe de l'introduction au livre, le terme « stratégie » semblerait avoir une connotation trop forte pour ces actes de parole souvent inconscients, ces choix dus au hasard ou aux circonstances de la vie, même si, du point de vue de l'observateur, le terme est approprié. Il s'agit véritablement de stratégies appliquées à la sphère de la communication et en tant que telles, j'ai souhaité les soumettre au lecteur. Dans cette même introduction, j'ai présenté 6 modèles de stratégie de la parole. Celui de glossolalie, des bianchi, du silence, omerta, de la poésie et de la prise de parole publique et de la métaphore. Aujourd'hui, par manque de temps, je vais seulement vous présenter le modèle du silence, donc omerta, et deux de ses pendants, celui de la poésie et celui de la prise de parole publique. J'ai choisi le modèle du silence parce qu'il me semble d'un côté le plus parlant et de l'autre parce qu'il semble susciter le plus d'intérêt. L'omerta est une pratique sociale qui découle du système traditionnel des représentations des paysans siciliens qui apparaît aujourd'hui aux yeux des spectateurs comme une stratégie propre à l'association criminelle connue sous le nom de mafia. Cette stratégie a en effet contribué à souder les membres de la mafia et à lui créer une image d'invincibilité. Les tentatives répétées de briser l'omerta des adhérents, petits ou grands, de la mafia semblaient vouées à l'échec jusqu'au jour où Tommaso Buscetta décida de se venger des torts subis et il parla en brisant l'interdit de l'omerta. Les définitions que certains auteurs, principalement siciliens, donnent à partir de 1860 du mot « omerta » découlent en réalité des analyses du phénomène de la mafia. En effet, les textes dont nous disposons montrent que l'omerta est censé expliquer le comportement des mafiosi dans la mesure où elle est présentée comme un code auquel il ne saurait se soustraire. C'est la pièce fort acclamée de Gaspare Mosca et Giuseppe Rizzotto, appelée I mafiosi di la Vicaria, jouée pour la première fois à Palerme en 1863 et par la suite dans toute l'Italie, qui assoit aux yeux du vaste public le terme de mafia, la conduite spécifique des mafiosi et leur vocabulaire hermétique. Le point capital de la pièce, que l'on apprécie depuis quelque temps à sa juste mesure, est de montrer la prison comme lieu stratégique du pouvoir mafioso. Bien sûr, l'omerta y est présente en tant que pilier de l'éthique mafiose, et le personnage de l'espion, désigné comme infâme, subit le châtiment qu'il mérite, c'est-à-dire la mort. Omerta, selon le vocabulaire sicilien-italien d'Antonio Traina, publié en 1868, dérive du mot « homo », qui signifie « homme », et désigne la qualité d'être homme. Mais, ajoute aussitôt l'auteur, c'est-à-dire Traina, ce sont les mafiosi qui le disent pour exprimer l'être homme dans le sens incivil qui est le leur propre. Quelques années plus tard, Giuseppe Allongi, un fonctionnaire de police proche de l'école d'anthropologie criminelle de Cesare Lombroso, publie dans un ouvrage intitulé « La mafia » avec deux F, à l'époque « mafia » avait toujours deux F, publié en 1886, ses découvertes sur les manifestations antijuridiques de la mafia. Il y présente l'omerta comme, je cite, « un code spécial » qui établit comme premier devoir pour un homme celui de se faire justice par ses propres mains des torts reçus et, au contraire, couvre d'infamie et désigne à l'exécration et à la vengeance publique quiconque a recours à la justice et l'aide dans ses recherches ou son action. Ainsi, même le citoyen le plus honnête croit faire œuvre vertueuse en soustrayant à la justice un assassin ou en refusant de témoigner contre lui, puisque le code de l'omerta dit que s'il y a un mort, il faut penser au vivant, et que le témoignage est une bonne chose seulement s'il ne fait pas de mal au prochain. Fin de citation. Giuseppe Pitre, le grand spécialiste des traditions populaires siciliennes qui publie le gros de son œuvre entre 1870 et 1931, affirme par ailleurs que, je cite, « la base et le soutien de l'omerta sont le silence. Sans cela, l'homme, donc l'homme, sans cela, l'homme ne pourrait être homme, ni maintenir sa supériorité incontestée quand, car, en restant à découvert face à la justice, il en éprouverait les rigueurs. En soutient l'omerta, dans la mesure où on est sûr de son impunité, on est impuni et on se promène dans la mesure où personne ne vous dénonce et, si l'on vous dénonce, personne ne dépose comme témoin à charge. » Fin de citation. À l'appui de leur thèse, nos auteurs citent souvent des proverbes ou des chants de prisonniers siciliens. Parmi les injonctions les plus significatives de ces chansons, « Quand tu parles, pèse tes mots. Un homme d'honneur doit savoir parler. L'homme qui est homme ne révèle jamais, même s'il reçoit des coups de couteau. » Un autre chant recommande l'attitude suivante. Je cite, « Les hommes ne sont pas ici, pas non plus à la campagne, ils sont au secret, sous terre. Quand ils parlent avec la justice, ils ont les poings liés et les yeux à terre. Le juge me dit, « Fils, parle, car ceci n'est pas une clé qui ouvre, elle enferme. L'homme qui parle ne gagne rien, il s'enterre avec sa propre bouche. » Fin de citation. Parmi les proverbes cités par Pitre, ceci me semble particulièrement éloquent. Celui qui parle confesse, celui qui contracte une dette paye. La bouche est traîtresse du cœur. Le parler peu est un bel art. Le pas doit être long et la bouche courte. Ainsi, si l'on remarque que si nos auteurs expliquent l'omerta comme étant principalement un code appartenant à la mafia, ils sont néanmoins obligés de l'élargir aux conduites de la population masculine sicilienne. C'est ce que j'ai moi-même fait à l'aide de petites histoires publiées en 1884 par Séraphine Amabile et Guastella, dans lesquelles les paysans de la partie orientale de l'île justifient métaphoriquement, leurs conditions sociales ainsi que leur conduite. J'ai donc essayé de démontrer que la pratique de l'omerta ne devait pas être attribuée à la mafia car elle découle en effet du système traditionnel de représentation des paysans siciliens et qu'elle n'a jamais été de surcroît l'apanage de la partie occidentale de l'île où la mafia a surgi et s'est développée. Une de ces histoires, publié par Guastella, raconte qu'un jour, le parler et le manger se disputèrent et, faute de se mettre d'accord, allèrent chez le roi Salomon pour qu'il tranche la question. Les raisons du litige étaient que la vue, lui et l'odorat ont chacun deux petites maisons, mais qu'eux étaient condamnés à rester comme des voleurs, pieds et mains liés, tous deux dans une même demeure. Ils souhaitaient être séparés et avoir chacun la bouche en exclusivité. « Écoutez-moi, je vais vous mettre d'accord, » dit le roi Salomon. « Toi, le parler, tu domineras son rival dans la bouche des riches, car ils ont le manger assuré, et s'ils ne parlaient pas, ils n'auraient vraiment rien à faire. Et toi, ô manger, tu feras à ta guise la loi dans la bouche des pauvres, car moins les pauvres parlent et mieux c'est. Partagez-vous donc les bouches des hommes et ne pensez plus à vous disputer. » Une autre de ces histoires publiées par Guastella raconte qu'un saint moine, frère Illuminato, vit un jour dans les bois un chevalier tuer son compagnon. Sans y penser deux fois, il décide d'aller raconter le fait à la justice. Chemin faisant, ils rencontrent un lapin, puis un petit chien, et enfin un agneau qui chacun saute de joie devant lui en le voyant, pour lui demander par la suite « Où vas-tu, frère Illuminate ?» Connaissant la raison de sa présence, chacun essaie de lui faire changer d'avis en lui disant « Garde-toi d'y aller !» Mais frère Illuminate persiste dans l'idée que son devoir est de dénoncer le chevalier et se fait traiter d'espion ou bien de scélérat. Et je cite la suite. Frère Illuminato marche, marche et marche et arrive enfin devant la porte de la ville. Sur cette porte, il y avait une statue magique qui portait à sa bouche un clairon qu'elle tenait entre ses mains pour le sonner vigoureusement chaque fois qu'un ennemi s'approchait. Or, cette statue, quand elle vit s'approcher le moine, écarquilla les yeux et s'apprêtait à sonner quand frère Illuminato lui demanda « Pourquoi sonnes-tu ? Suis-je un ennemi ?»« Tu es le vrai ennemi de cette ville, » lui répondit la statue. « Tu veux dénoncer ce chevalier qui sera le bienfaiteur de cette ville. Or, tu dois savoir que ce chevalier deviendra un saint et laissera tous ses biens aux pauvres et aux orphelins. Retourne plutôt à ton couvent. » Frère Illuminato pensa que c'était la volonté de Dieu qu'il n'aille pas chez la justice et à son retour, le lapin, le petit chien et l'agneau lui firent fête.
Le bistrot des ethnologues.
Comme on peut le voir, aller à tout prix à contre-courant ne paye pas. C'est ce que les paysans ne cessent de se répéter pour s'en convaincre. Mieux vaut feindre l'ignorance, ne point se mêler de ce qui est établi en dehors d'eux, car la survie n'est garantie qu'au prix d'une fausse indifférence aux événements sociaux qui les entourent et qu'ils n'ignorent certes pas. Le monde de la nature, représenté ici par le lapin, le chien et l'agneau, participe de cet instinct de conservation. La société personnifiée par la statue à la porte de la ville l'érige en norme. La passivité, envisagée comme étant le seul modèle de comportement adéquat, permet aux paysans de riposter aux violences subies par une forme différente de violence qui leur donne la possibilité de ne point se démarquer. Le silence. Les histoires publiées par Guastella illustrent les conduites que les paysans préconisent à leurs semblables. L'emploi de la ruse et surtout l'emploi de ce qu'ils considèrent comme le summum de cette ruse, le silence. Ce silence, habilité suprême dans l'art de survivre, est la traduction de différents impératifs d'ordre moral et d'ordre pratique, de la soumission à l'attente de l'occasion propice pour s'insurger, du consentement au refus mais non formulé dans la mesure où le dialogue avec les autres membres de la société ne peut avoir lieu, de l'identification d'une situation de violence où l'écoute leur est déniée à l'adhésion à une nouvelle forme de violence, le refus de parler. Grâce au silence, l'on peut ainsi passer de la passivité à l'opposition sans que cette dernière apparaisse comme telle aux yeux des observateurs. Si l'on peut dater la fin de l'omerta mafieuse aux années 1986, c'est-à-dire lorsque Buscetta finalement prendra la parole, où en chercher les origines? Quand aperçoit-on les premiers signes de l'omerta en tant que praxis dominante et modèle culturel de comportement? Nous avons vu que les définitions données par les auteurs, principalement siciliens, que je viens de citer, date de 1860. Mais l'omerta elle-même, pouvons-nous la dater? C'est en effet ce que j'ai essayé de faire en utilisant les décharges de conscience dictées par les prisonniers condamnés à mort aux frères de la compagnie des Bianchi la veille de leur exécution. Ces matériaux me permettent de dire que, jusqu'à la fin du XVIIIe siècle, le terme « omerta » n'était pas employé dans le contexte dans lequel nous le verrons utilisé à partir de la moitié du XIXe siècle. Grâce à ces mêmes décharges, on peut ajouter que, sous la torture judiciaire, les Siciliens ne ressentaient aucune entrave particulière à donner les noms de complices, vrais ou inventés, exactement comme n'importe quel homme dans n'importe quel autre pays. Comment expliquer alors qu'un siècle plus tard, donner des noms devint une telle tâche pour l'honneur du locuteur? Un siècle est-il suffisant pour constituer une tradition, ou celle-ci devint-elle possiblement possible uniquement parce que la torture judiciaire avait cessé d'être utilisée pendant les interrogatoires? De plus, grâce aux exemples offerts par les décharges de conscience à ma disposition, j'ai pu avancer l'hypothèse que la confrérie des Bianchi produisait un modèle qui fonctionnait contre les pratiques ordinaires, quotidiennes, de la délation, ou pire, de la calomnie, ou pour éviter la torture ou des peines. Le modèle des Bianchi conduisait le condamné à rétablir la réputation de ceux qu'il avait dénoncés pendant la torture ou dans la vie réelle, en disant une fois pour toutes la pure vérité, la pura verità. À ne pas nommer en aucune circonstance dans sa décharge de conscience des personnes connues par lui pour avoir commis des crimes ou des méfaits, mais d'accepter la responsabilité pour les faits dont il est accusé. Ce modèle souligne l'importance du fort interne, le divin tribunal, devant lequel la conscience devra accepter ses actions passées dans un suprême effort pour éviter l'enfer. Pendant la dictée de ses décharges de conscience, le condamné à mort pénètre déjà dans la sphère céleste à laquelle il espère accéder après sa mort. Les Bianchi sont les guides qui l'aident pendant ce long parcours à rejoindre l'au-delà dans les meilleures conditions. En interdisant de donner le nom de personnes innocentes ou coupables, les Bianchi développent un modèle d'omerta pieuse et se tiennent à distance du modèle de suspicion généré par les juges. Ainsi, la pure vérité permet aux condamnés d'innocenter les personnes qu'il avait dénoncées à tort et de ne pas nommer celles dont le nom n'avait jamais été nommé pendant le procès ou sous la torture. Il semblerait qu'il y avait en Sicile, dans la période en question, plusieurs façons de se purifier la conscience. Au modèle fonctionnel de la pratique judiciaire qui génère des soupçons à travers torture et confession, fait écho le modèle des Bianchi qui nettoie la réputation des personnes dénoncées. Ce dernier serait-il l'expression d'une tradition pieuse qui soupèse les besoins du fort interne en les opposant aux expédients judiciaires, ou ce modèle d'omerta pieuse serait-il plutôt d'inspiration aristocratique dans la mesure où les Bianchi étaient en majorité nobles? Quelle que soit la réponse, il est évident qu'il n'existait pas un code de silence applicable de façon indiscriminée à toutes les situations, institutions et personnes valables pour régler la société sicilienne dans son entier. La seule forme d'omerta pratiquée consciemment, vrai modèle de conduite, était l'omerta pieuse des Bianchi. Ces documents ne nous permettent pas de trouver des formes équivalentes d'omerta dans d'autres sphères sociales et culturelles. Mais est-ce que l'omerta avait à sa naissance une pratique et une institution religieuse? Si cela était vrai, comment était-il possible que ce soit développé plus tard dans des conditions sociales et juridiques différentes, un modèle fortement utilisé devant les autorités judiciaires? Mais lorsque nous retrouvons ce modèle d'omerta au XIXe siècle, il se trouve généralisé, ayant des fonctions différentes selon les acteurs qui l'utilisent. Pour les paysans, comme une protection des pauvres contre les riches. Pour les aristocrates, comme une manière de soustraire aux autres la responsabilité individuelle et sociale de la surveillance, de l'État et de la justice. Pour le mafiosi, comme une justification pour imposer le silence aux complices et aux témoins du crime. Dans tous les cas, le modèle implique un droit de silence qui rend impuissant la justice et l'État. Tout à l'heure, je parlais du cheminement de la recherche, mais ce cheminement, comme vous avez pu le remarquer, s'est fait à rebours. En allant en arrière dans le temps, il me semblait apercevoir des choses fort différentes. Mais est-ce que ces perceptions étaient aussi utiles? De mon point de vue, ici, oui. utile car il me semble avoir pu démontrer que la pratique de l'omerta n'était pas une loi du silence, comme on le traduit en français ou dans d'autres langues, appartenant à un groupe de criminels qu'il impose à la société tout entière, mais une stratégie de la part d'une couche sociale différente pour se frayer un chemin dans la vie de tous les jours sans y laisser des plumes. Maintenant, je voudrais dire quelques mots aussi sur un autre modèle de stratégie de la parole, celui de la poésie. Il est important, il me semble, de voir que les hommes, dans mon exemple les paysans siciliens, ont dans leur vision du monde aussi une possibilité de sortie, une possibilité de réussite. Bref, qu'ils envisagent une lueur d'espoir quelque part dans leur frustre quotidien. Ainsi, si d'un côté ils prêchent le silence, l'omerta, de l'autre ils envisagent une possibilité, celle de parler comme un poète pour le faire. Pour illustrer ce fait capital à mes yeux et pour souligner la relation entre silence et parole, je vais vous lire une autre petite histoire rapportée par Séraphine Amable et les Guastel. Un jour, un paysan reçoit la visite de Jésus et des 12 apôtres et, constatant son aisance à faire des miracles, il lui dit « Seigneur, je possède cette petite maison, ces 4 rangées de vignes, ce petit potager que vous voyez et ce petit morceau de terrain, mais malgré cela, je ne suis pas en vérité propriétaire de rien. Car dans ce château, en face, habite un chevalier qui me met au pied du mur. Je sème, et ce qui est semé, ses vaches et ses poules le mangent. Je pioche la vigne, et les raisins sont mangés par ses valets. Je travaille dans le potager, et ses muletiers me le réduisent comme la paume d'une main. Et tout cela parce qu'il veut que je lui vende ce petit terrain. N'y étant parvenu, cette âme damnée commence à faire du charme à ma femme. La femme, on le sait, est comme une canne. Elle se laisse convaincre par ses mots et voici qu'un jour elle me quitte pour aller vivre avec lui. Que dois-je faire? Si je vais en justice, les juges seront de son côté. Si je me lamente, c'est qu'un pierre, ils vont me réduire en écheomo. Je suis cocu et rossé, comme dit le vieux proverbe. Ce que je voudrais, maître, c'est pouvoir sans danger lui faire honte devant tout le monde et raconter à tous les infamies qu'il commet. Pour faire cela, lui dit le Seigneur, sois poète, car en ce monde, seul le poète peut dire la vérité sans peur de personne. Viens ici, mon enfant, agenouille-toi, car je veux te donner le don de poésie. À partir de ce moment, le Russe commença à composer des terribles poésies contre les chevaliers, et les chevaliers se rangeaient tous, mais ils ne pouvaient rien car le poète n'a peur de personne quand il dit la vérité. Et le chevalier dut lui rendre sa femme et lui demander pardon. La poésie se substitue ainsi au silence. Elle devient une issue au mutisme imposé aux paysans, un véritable moyen d'action. Point d'étonnement à ce que ce soit cette figure transposée et métaphorique du parler qui s'oppose au silence, expression intériorisée du refus. Les paysans basculent donc du non-dit au dit autrement, deux attitudes opposées qui les décalent dans leur relation avec les autres membres de la société, étant soit en deçà, soit en delà d'une communication normale. Pour terminer, je voudrais dire quelques mots sur le modèle de la prise de parole publique. Avec ce dernier exemple, nous nous éloignons du respect du code de l'honneur, du blocage dans des situations marginales ou ambiguës, pour entrer dans la sphère de l'autonomie où les limites sont franchies et où la parole transmet des informations précises, témoigne, raconte les événements passés à un large public et aux médias. La première prise de parole publique fut celle du fameux mafieux Tommaso Buscetta, et elle eut lieu dans un tribunal palermitain le 10 février 1986. En prenant la parole, Buscetta a dénoncé ses pairs et souligné, en même temps, la victoire de l'État sur l'omerta. L'acte courageux de Buscetta était aussi un cri de refus du système mafieux qu'il avait opprimé après avoir opprimé un grand nombre des siens. Après Buscetta, c'est Salvatore Contorno qui a parlé. Et après lui, Marino Mannoia, et après d'autres, comme par exemple Antonino Calderone. Les premiers repentis, comme on les appelait à l'époque, avaient une relation privilégiée avec deux magistrats, Giovanni Falcone et Paolo Borsellino, morts tous les deux en 1992 dans des attentats différents. Ils étaient les fameux passeurs de ces témoins à charge qui aidaient à aller de l'omerta à la prise de parole publique. Il n'est pas simple d'analyser ces prises de parole. En effet, elles peuvent être vues comme des dénonciations ou comme des réactions qui dérivent d'une forte admiration pour la période antécédente de la mafia. Ainsi, les dénonciations de Boucher, Tacantorno, Manoia, etc., peuvent être perçues comme émanant de la part de vieux mafieux contre le groupe des Corleonesi qui avait anéanti ce qui restait de la vieille mafia pour en faire une mafia entrepreneuriale. Ou, au contraire, on peut lire dans ce besoin de témoigner publiquement une aspiration vers un monde sans mafia que les figures hautement morales de Falcone et Borsellino rendaient possible. Suite à cette prise de parole publique, le locuteur est formellement réintégré dans la société. Souvent, cette réintégration provoque une nouvelle marginalité. Les repentis les plus connus doivent se cacher, se protéger, changer de nom ou de visage. Mais la prise de parole publique produit aussi, au niveau local, une prise de conscience collective à l'encontre de la mafia qui semble faire son chemin à travers des manifestations anti-mafia, des slogans, des pancartes et des associations comme celle de Addio Pizzo. Il est évident que cela prendra beaucoup de temps dans la mesure où les lourdeurs culturelles des différentes stratégies de la parole que je viens de présenter subsistent et freinent les aspirations au changement sans pour autant, je l'espère, les arrêter totalement. Merci de votre écoute.